Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle saison de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen qui vous proposera tout au long de cette année, cette nouvelle année, encore de séries de débats sur l'actualité et des partages de vos préoccupations. Aujourd'hui donc, le Parlement est en session extraordinaire depuis le mardi dernier sur demande du chef de l'État, Joseph Kabila. Une session consacrée à l'examen et l'adoption par les deux chambres de certaines lois jugées urgentes. Il s'agit donc notamment des textes relatifs à la mise en œuvre des engagements internationaux pris par la RDC en matière des droits de l'homme et de l'amélioration du cadre macroéconomique adopté par le gouvernement ainsi que le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo. Quel regard portez-vous sur cette session extraordinaire? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 63 30 ou bien au 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook et autres réseaux sociaux. Pierrot Elameji et Mimi Kindou sont à la production de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji sous la supervision de Julien Niamouine. Excellente condition d'écoute à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio l'honorable député Paul Muindo, voilà, donc qui est avec nous, Muindo Vahumahawa, voilà, je crois que je m'habituerai à bien prononcer ces mots, ces noms. Alors, honorable, vous êtes avec nous dans ce studio, monsieur le député, pour échanger de manière un peu citoyenne sur ces sujets. D'entrée de jeu, est-ce que cette session extraordinaire est... opportune pour les uns et les autres.
Merci bien. Je voudrais d'abord souhaiter mes vœux le meilleur et une heureuse joyeuse année à toute la population congolaise. J'espère bien que cette fois-là, les élections vont bien avoir lieu au cours de cette année. Je voudrais également répondre à la question Monsieur Gir. Tout à vous présenter également mes vœux meilleurs, puisque c'est depuis l'année passée que c'était vu. En fait, vous savez, l'opportunité d'une session extraordinaire ne peut que d'abord être légale. Et étant dans un pays qui, du moins, a de lois, et toute convocation d'une session extraordinaire doit, n'est-ce pas, répondre à toutes ces lois-là. Et précisément, c'est la loi de base, là, qui est la Constitution. La Constitution a ses articles 100. 111 et 112 prévoient une convocation d'une session extraordinaire, soit par le Parlement, disons le Parlement, ça veut dire l'Assemblée nationale et le Sénat, soit par le Président, soit par le gouvernement. Mmh. Et donc ici, il s'agit, n'est-ce pas, du Président qui a voulu à ce que nous puissions revenir et discuter, n'est-ce pas, de certaines questions que lui a jugées urgentes. Et donc voilà que sur le plan légal, l'opportunité est là.
Au nombre des matières jugées urgentes ne figure pas clairement la question relative aux élections.
Bien évidemment. Donc je disais que voilà.
Il y a beaucoup plus l'accent sur les codes miniers, sur la Banque centrale, sur les accords internationaux. Finalement, est-ce que ça peut encore redonner des doutes sur l'organisation effective des élections cette année?
Non, mais vous avez dit vous-même que les matières jugées urgentes par le chef de l'État ont été programmées à la CE, ont été, n'est-ce pas, demandées du traitement au niveau du Parlement. Mais il y a des matières que nous jugions aussi urgentes que le peuple congolais jugeait urgente. Et nous avons également plusieurs associations qui jugeaient certaines matières urgentes. Vous avez par exemple la loi électorale. La loi électorale est récemment adoptée d'une manière cavalière. Et cette loi, n'est-ce pas, n'a pas respecté certaines procédures, n'a pas respecté les consensus voulus par la Charte africaine, mais aussi par la Constitution congolaise. Et plusieurs acteurs, notamment un grand nombre de députés, et nous avons également certains partis politiques, nous avons des associations de droits de l'homme, nous avons d'autres partis politiques, nos membres du Parlement, avaient écrit même au gouvernement et au chef de l'État, lui demanda expressément d'aligner aussi la loi électorale qui pose des problèmes et qui vient créer davantage de divisions et de frustrations dans ce processus électoral. Mais cette matière n'a pas été alignée. Et donc, il y a plusieurs autres matières que nous allons, n'est-ce pas, essayer de toucher tout au long de cette émission. Mais je voudrais quand même dire qu'il ne s'agit pas simplement de deux matières. Il y a six matières qui ont été programmées. Nous avons donc les codes miniers et nous avons le projet de loi relatif au partenariat public-privé. Nous avons le projet de loi organique portant fonctionnement de la Banque centrale. Nous avons la proposition sur la protection et les régimes des activités des défenseurs de droits humains. Nous avons le projet de loi sur le principe et fondement au tourisme. Dans le principe, projet de loi portant sur les principes fondamentaux relatifs au tourisme, nous avons enfin le projet de loi sur la liberté du prix et la concurrence. Donc c'est au moins six matières qui, n'est-ce pas, vont être débattues tout au long de cette session. C'est une session d'au moins un mois.
Est-ce que vous, en tant que député, vous estimez que ces matières sont vraiment urgentes?
Pour moi,
au moment où, en tout cas, la population dans son ensemble n'attend que des élections.
Vous savez, c'est ça le toujours le problème qui se pose entre l'inadéquation autour de besoins réels de la population et certaines matières qui sont traitées au niveau du Parlement. Et à un certain moment, on se réalise qu'on est à déphasage, n'est-ce pas, des vrais problèmes de la population. Quels sont ces vrais problèmes, par exemple? Et nous avons par là simplement de toute la République du Congo, nous avons le problème de la sécurité. Vous savez que lorsque même il y a eu des inondations ici, c'est un problème de la sécurité. Vous avez le problème au Nord-Kivu lié à l'insécurité. Vous avez au Kasaï, vous avez dans les Katanga. C'était anormal, par exemple, qu'une session parlementaire se termine sans qu'on puisse même convoquer le ministre, n'est-ce pas, de la Défense. C'est une matière urgente. Et puis une matière, n'est-ce pas, qui est importante même pour l'organisation des élections. Parce que comment on peut organiser l'élection dans un milieu où il n'y a pas de sécurité? Donc cette matière...
Parce que nous avons vu dans certaines parties du pays, lorsque on organisait d'ailleurs l'enrôlement, il y a eu des coins où, en tout cas, ça n'a pas été facile pour la CENI de mener en toute sécurité donc ces opérations d'enrôlement, notamment dans la partie nord du pays, pour ne pas parler de l'Isiro ou encore de Wamba, où il y a eu des Mororo qui ont sémé la terreur et qui sont même partis, de ces éléments, qui sont partis avec certains de matériel. Voilà, on va revenir à vous, monsieur le député, par rapport à cette question, le temps pour nous d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui vont participer à ces débats citoyens qui évoquent l'opportunité ou non de cette convocation de la session extraordinaire du Parlement.
Vous êtes une femme leader? Vous connaissez une femme leader?
Responsable politique au cadre de l'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires.
Connectons-nous! Faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 62 91 154.
Ou alors par mail à femmesleadersrdc@gmail.com.
Mmh. Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. C'est Passe, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. C'est Passe, vous êtes avec nous? Voilà, le temps que nous disons qu'on améliore la ligne de ces passes, on prend Hervé qui est à Calémie. Hervé, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gilles, bonjour à tous les gens qui me suivent en ce moment.
Voilà, Hervé, jugez-vous opportune ou non la session extraordinaire que vient de s'ouvrir donc depuis mardi dernier?
Oui, c'est vraiment important pour cette session parce que actuellement, comme je l'ai dit dans mon commentaire, la dépréciation monétaire et la préservation des droits humains et des droits et libertés fondamentaux, c'est un point aussi capital pour l'organisation des élections. On peut jamais organiser les élections sans vraiment l'argent, parce que sûrement la dépréciation de la monnaie congolaise, c'est aussi un fléau capital qui demande sa stabilisation et qui pourra aussi nous aider à trouver certaines fois, parce qu'aujourd'hui, même l'enrôlement et le tout repose sur l'argent. Sans argent, on ne peut rien faire. Et aussi, sur ce qui concerne donc le test cadrant avec les droits internationaux, surtout relatif aux droits humains, c'est vraiment très nécessaire actuellement, parce que la RDC a accédé récemment au Conseil de sécurité des Nations Unies et doit quand même faire montre à travers le monde, dans sa maturité sur le cadre de la protection des droits humains et des libertés, des droits fondamentaux. C'est que, actuellement, pour moi, je juge vraiment opportun, je juge important, cette session, c'est très capital pour nous, ça pourra aussi nous aider à aller plus loin, parce qu'on ne sait jamais s'attirer sur notre histoire, pendant que nos droits et les libertés sont en train d'être aussi évincés. Et là, nous demandons toujours au gouvernement de bien vouloir aussi traiter avec sévérité cette matière dans notre pays pour avoir une tranquillité quant à ça.
Merci beaucoup Hervé. Donc vous estimez que les textes, donc c'est quand même important cette convocation de la session extraordinaire, dès lors que les textes, notamment relatifs, disons, à la mise en œuvre des engagements internationaux pris par la RDC en matière de droits de l'homme, pourraient avoir aussi des liens directs ou des liens étroits en ce qui concerne l'organisation des élections en RDC, si jamais, en tout cas, les droits de l'homme n'est pas respecté, et nous risquerons d'organiser donc les élections l'entend la population. Et aussi la question sur la dépréciation de la monnaie, le fait que cette matière soit inscrite au fait comme matière urgente, vous estimez aussi que cela vaut son pesant d'or. Merci beaucoup Hervé d'avoir appelé des Calémies. Alain, vous êtes en Bandaka, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à votre invité, et je salue votre présence en République démocratique du Congo.
Merci beaucoup Alain. Et quel est votre avis? Vous jugez-vous aussi que c'est important, cette session extraordinaire, ou peut-être vous avez une autre lecture par rapport à ça, contre donc les propos tout à l'heure d'Hervé?
En fait, de manière globale, je dis que c'est important. Mais de manière collective, je me dis si c'est urgent. Parce qu'il y a certaines questions qui demandent effectivement à ce que le député s'y penche pour que nous arrivions effectivement à prendre position par rapport à certaines questions et certains enjeux mondiaux. Nous avons effectivement été choisis parmi les membres du Conseil en ce qui concerne le droit de l'homme au niveau international. Et cela va demander à ce que nous puissions ratifier certains accords, certains traités pour nous permettre de bien représenter notre pays. Sur ce point-là, je ne vois pas vraiment d'inconvénient. Mais aussi, il y a d'autres questions qui touchent pratiquement à l'économie. Et j'estime de mon point de vue qu'il y a un problème d'approche. Peut-on stabiliser la monnaie par des réformes de la Banque centrale? J'ai dit oui et non. Oui, pourquoi? C'est parce que lorsqu'il y a des réformes adaptatives pour faire en sorte que la Banque centrale soit efficace dans ses actions, on peut justifier des réformes. Et c'est ce qui justifie même la gouvernance dans un État. Mais ce qui est aussi vrai, nous avons pu enregistrer la stabilité de la monnaie pendant plusieurs périodes sans qu'il y ait cette réforme. C'est vrai que même si on initiait aujourd'hui cette réforme, l'incidence de ce qui va en découler ne va pas se ressentir en 2018. certainement, ça va se ressentir en 2019 par le simple fait qu'il y a une procédure jusqu'à ce que nous arrivions effectivement à rendre efficace la Banque centrale.
Le caractère urgent qu'on colle à ces matières, est-ce que vous estimez que cela est aussi trouve un lien direct avec la situation actuelle? Tout le monde attend les élections.
Bon, ce qui est vrai, moi je suis de ceux qui pensent que la priorité des priorités ne peut pas être les élections. Parce que les élections sont conditionnées par la stabilité du cadre macroéconomique et la stabilité du cadre sociopolitique. Ce qui veut dire, on doit rechercher la stabilité du cadre macroéconomique, mais on ne peut pas en faire un prétexte. Parce qu'il y a possibilité d'atteindre la stabilité du cadre macroéconomique sans réviser la loi portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale. Dès lors qu'il s'agit ici de rechercher la rationalité dans la gestion de la monnaie et non les individus ou la manière dont les choses sont faites au niveau de la Banque centrale. C'est vrai que c'est nécessaire, mais ce n'est pas urgent. Il y a aussi un autre fait. Nous sommes devant une problématique en termes de financement des élections. Et tout le monde sait que la session extraordinaire sous-entend une charge ou un coût supplémentaire. Alors, moi, je me pose la question. Si on savait que c'était urgent, alors que nous étions en pleine session ordinaire, qui a pris pratiquement 3 mois, pourquoi n'a-t-on pas aligné toutes ces lois-là en termes d'urgence pour que nous ayons effectivement ce que les autres visent comme mécanisme de solution ou mesure d'adjudication. Comme des mesures de solutionnement du problème. Le fait qu'on a laissé les députés être dans ce que moi je pourrais appeler la théâtralisation politique pendant au moins 3 mois, qui ont créé une confusion dans nos esprits, et à la fin on se rend compte que donc voilà, il y avait des questions essentielles sur lesquelles nous devions nous appesantir et on doit le convoquer en session extraordinaire. Le coup là de la session extraordinaire peut aussi renforcer la crise qu'il y a au niveau du pays. Et pourquoi ils n'ont pas anticipé? Parce que moi je me dis, la gouvernance c'est aussi le réflexe de l'anticipation. Pourquoi convoquer une session extraordinaire alors que sur le plan textuel ou sur le plan de loi, cette session n'a pas pondu autant de lois, atteint les objectifs escomptés. Alors si on veut dire qu'aujourd'hui, voilà, si on touche la question des droits de l'homme, ça va faciliter la tenue des élections, je m'inscris en faux. Parce qu'il y a suffisamment de lois qui garantissent les droits et libertés des individus et qui ne sont pas respectés. La Constitution a repris plus de 50 articles qui parlent de droits de l'homme et qui ne sont pas respectés. Je ne pense pas la ratification d'une seule loi va garantir la bonne tenue des élections.
Merci beaucoup.
On doit faire en sorte que la gouvernance ne soit pas une gouvernance de tâtonnement. On doit faire une gouvernance de précision.
Merci beaucoup.
Merci
beaucoup Alain. Je retiens que c'est important cette session extraordinaire, mais de manière un peu urgente. Donc vous vous posez sans doute la question de savoir le caractère urgent qu'on a accordé à toutes ces matières qui sont traitées au cours de cette session. Vous avez estimé que pendant les 3 mois passés dans la session ordinaire, il y a eu ce que vous avez qualifié donc de la théâtralisation donc politique. Et aujourd'hui, on ne tient pas compte de ces coûts que va générer donc la convocation de cette session extraordinaire et qui aura comme conséquence le renforcement de la crise actuelle. Merci beaucoup. Cephas, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue. Voilà, Cephas, décidément, on a des petits problèmes avec votre ligne parce que quand vous êtes en ligne, en direct, vous ne parlez pas. Cephas, vous êtes avec nous? Voilà, on prend plutôt Claude qui est à Likassi. Claude, bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour JR et bon retour au studio parce que ça fait un bout de temps que vous étiez un peu en congé.
Merci.
Et nous présentons tout d'abord nos vœux le meilleur à tous les Congolais, auditeurs de la radio Capi et à vous aussi, grande équipe de parole aux auditeurs.
Merci, ça me va droit au cœur.
Moi je me dis ici, priorité, urgence. Je crois que, à ce stade, j'ai dit non. Pourquoi j'ai dit non? Parce que ce n'est pas pour rien que nos législateurs, dans bon nombre des pays, ont prévu que le mandat, n'est-ce pas, pour un chef de l'État, pour les députés, soit de 5 ans. C'est supposé que dans 5 ans, lorsque on a des innovations, des initiatives, de changements, on peut facilement le couler en, sous forme de loi, les faire appliquer, et à la fin, n'est-ce pas, de la mandature, ça veut dire 5 ans que le peuple vous a donné, et ça suffit pour que vous puissiez présenter un bilan, et un bilan soit positif ou négatif. Mais regardez, maintenant, nous sommes en face des députés qui sont là, nationaux, provinciaux et sénateurs, n'en parlons pas, qui ont déjà dépassé largement les 5 ans. Ça veut dire que leur projet de société a déjà expiré. En termes de médicaments, on peut même dire que ça a déjà expiré. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut proposer à ce stade, c'est en dehors même, n'est-ce pas, des programmes qu'ils avaient présentés lors de leur campagne. Et c'est la routine. Lorsqu'on a déjà dépassé les mandats, c'est la routine. Et tout ce qu'on fait, pour vraiment, ça ne cadre pas. Tenez, on parle des engagements pris par la RDC pour les activités, le défenseur des droits de l'homme. Mmh. Bon, notre constitution, comme l'a dit les prédécesseurs, combien d'articles en faveur, n'est-ce pas, des droits de l'homme qui sont là? La liberté de manifester, par exemple, on dit qu'il faut simplement informer. Les droits en termes de détention et autres, est-ce qu'on les applique? Ou bien il faut encore d'autres lois, tout ça? Parlons de la BTC. Cette fameuse banque que nous avons, les taux étaient à 900. Maintenant, nous sommes à 1500, 1600. Où était le gouvernement? Où étaient les ministres? Où étaient ceux qui avaient les mandats de 5 ans pour essayer de mettre des bases solides? Je crois que les matières à traiter de bout en bout, et quelle que soit leur importance signalée par ceux qui traitent, c'est important, c'est du gaspillage seulement. C'est-à-dire la priorité pour le temps, pour des gens qui savent qu'ils ont déjà dépassé leur mandat, c'est-à-dire leur projet de société était donné au peuple congolais en durée et aussi en termes de...
Est-ce que Claude, vous l'estimez, la durée est déjà finie, donc
tout ce qu'il peut proposer, tout à fait. En tout cas...
Oui, je voulais constater, Claude...
dit Félicien de Kinshasa que c'est la médiocrité.
Oui, alors Claude, vous n'estimez pas comme les autres que, c'est vrai, la crise a atteint quand même des proportions très inquiétantes. Aujourd'hui, parler de la réforme de la BCC, et ça vaut quand même son pesant d'or pour, tant soit peu, apaiser quand même cette crise qui... continue à
rendre
l'ensemble de la population sur le plan économique.
Vous avez déjà fait mandat.
Oui.
Lorsque vous êtes fait mandat, tout ce que vous pouvez faire en termes de réforme, c'est-à-dire, ça peut être un piège pour celui qui pourrait venir vous remplacer. Moi, je crois que dans des périodes comme ça, ce sont des périodes sensibles, vous ne pouvez pas faire des réformes pour laisser le pays dans le chaos, laisser des complications à celui qui viendra. Vous avez déjà terminé votre mandat, c'est 5 ans, et vous expédiez les affaires courantes de la transition. Il faut s'abstenir de voter de loi, s'abstenir de faire des réformes, parce que vous risquez de compliquer celui qui viendra en termes de successeur. Les députés qui viendront pour la nouvelle législature seront obligés encore de changer. Moi, je crois que ce qui est prioritaire pendant ces temps, c'est d'aller dans les sensibilisations, comment voter, aller dans des sensibilisations, comment, n'est-ce pas, faire des recettes afin de financer la CENI. C'est tout. Parce que ceux qui sont tentés au gouvernement, les opposants, ils n'ont qu'une seule mission, c'est-à-dire l'organisation des élections. Ils n'ont pas comme mission de proposer de nouvelles lois, d'autant plus qu'ils ont déjà expiré leur mandat. Quand vous êtes hors mandat, vous n'avez rien à proposer, monsieur, parce que vous avez été élu sur base d'une certaine durée. La durée a déjà expiré. Tout ce que vous pouvez faire venir, même si c'est du bon, on trouve ça comme étant un piège pour la nouvelle législature.
Merci beaucoup.
C'est un peu ça ma contribution pour l'émission.
Merci beaucoup, Claude. Vous parlez de la priorité et de l'urgence. Vous dites que l'une ou l'autre, en tout cas, ça n'a pas de place en ce moment parce que les députés au niveau national ou encore au niveau provincial ou aussi les sénateurs, ils sont hors mandat et tout ce qu'ils pourraient proposer, ça le considérerait qu'un piège pour les successeurs. Merci beaucoup. Pascal, vous êtes à Dungu. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, M. le journaliste. Bonjour la radio Capi et bon Anna 2017 à tout le monde.
Quel est votre avis, Pascal?
Merci, monsieur le journaliste, encore une fois de plus. Alors, je vois en mon humble avis que c'est important de convoquer l'extraordinaire par le président de la République. Mais à mon humble avis, je pense que cela pourrait être en aval. En amont, il devait d'abord faire l'évaluation sur l'applicabilité des lois existantes et puis de créer un comité d'urgence qui va monter sur les violations des droits de l'homme et les détournements des fonds afin de sanctionner les auteurs. Parce que ici chez nous, en RDC, il y a le problème de l'implicabilité. Implicabilité, monsieur le journaliste, qui soit défaut. Aujourd'hui, on peut y analyser des lois et des lois sur le terrain. Ça ne peut pas, l'implicabilité, ça fera défaut. Et c'est là aussi qui va conduire à l'échec. Je vois l'initiative du président de la République, comme il nous a promis en 2018, il va organiser les élections crédibles. Et comme il a déjà commencé les initiatives dès la première mois de l'année 2018, cela m'apparaît qu'il est en train d'arranger les rails afin de mettre les trains qui vont nous conduire aux élections de 2018. Mais avant d'arranger les rails, ce n'est de s'en tirer. De s'en tirer avec les gens qui ont conduit notre pays à des défauts que nous sommes en train d'arriver aujourd'hui. Et les autres parlent que l'urgence, c'est les élections. Oui, mais c'est les journalistes, nous avons l'urgence, c'est les élections, mais les élections en soi n'arrangent pas le problème.
Ce n'est pas une panacée pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. 09 97 06 49 69, c'est pour votre intervention en direct.
Grande interview. L'actualité en profondeur sur Radio Okapi, c'est dans Grande interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les spécialistes et les acteurs qui font l'actualité. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, 13h05 et 19h35.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Paul Mouindo Vaoumawa, vous êtes député national et rapporteur de la sous-commission environnement. Vous venez de suivre là cette série des auditeurs qui ont réagi par rapport à cette session extraordinaire. La question qui se dégage, c'est cette question sur la priorité et l'urgence. Est-ce que vous estimez comme les autres, il n'en est pas question, donc ni question de priorité, ni question d'urgence, parce que là, finalement, les esprits sont focalisés sur la tenue des élections.
Oui, moi je crois que par rapport à toutes les interventions, il y a d'abord deux choses à noter. La problématique entre la priorité, l'urgence et l'importance. Et je crois que, comme je l'ai dit au début, c'est important. Les matières qui ont été, n'est-ce pas, présentées ou sollicitées par les chefs de l'État sont de matières importantes. Mais pour moi,
qui seront peut-être un piège pour les autres qui viendront, parce que vous êtes déjà hors mandat, comme l'a dit Claude Delicacy.
Pour moi, elle ne constitue pas totalement une urgence. Et un piège, vous savez, la loi prévoit une révisitation de la loi. Ça veut dire quoi? Même s'il y a une loi qui a été prise aujourd'hui par un Parlement, demain, une initiative peut venir...
Est-ce que le moment s'y prête, vraiment?
Peut provenir du gouvernement. Donc là, n'est pas un problème. Dire que non, il y a un piège, c'est pas totalement un problème. Parce qu'à tout moment, on peut réviser une loi.
Est-ce que le moment...
Mais la question du moment, la question de l'importance, la question de l'urgence, voilà, c'est sur là. Et c'est là que je me penche. Je ne crois pas, pour moi, que toute la matière telle qu'évoquée ici soit totalement urgente. Et je m'en vais, par exemple, pour parler de la question sur la liberté du prix et la concurrence. Mmh. C'est vrai, c'est important. On doit réglementer le secteur économique. On doit réglementer le marché congolais. Mais je ne crois pas que ça soit totalement prioritaire maintenant. Mmh. Que ça soit totalement urgente maintenant. Et donc, moi, je crois qu'on devrait se pencher sur des lois totalement urgentes. Je prends, par exemple, la question sur...
Le code minier, par exemple.
La question sur...
Qui a toujours divisé
sur le code minier. Je prends la question sur le code minier. Vous savez que cette loi ou ces codes prévoyaient sa révisitation 10 ans après. Et c'est au moins vers les années 2012 hein, que nous devrions traiter de cette question. Et cette loi était sur la table du Parlement depuis longtemps. Ramenée au gouvernement, renvoyée au Parlement, ainsi de suite. Et nous l'avions traité, déposé depuis longtemps. Et voilà, nous revenons encore à la même loi sur, disons, à la session.
Oui, Alain l'a même dit, vous avez eu 3 mois de session ordinaire. Vous devez inscrire aussi des matières urgentes.
Voilà,
par exemple,
voilà,
le code minier.
Voilà pourquoi les codes miniers...
Vous aurez gagné le temps.
Les codes miniers avait commencé à être traité depuis la session passée. Disons, la session qui a pris fin, et la loi sur le code minier était en traitement. Mais on n'a pas fini son traitement parce que la loi devait aller au Sénat. Et actuellement, où nous allons, la loi est au Sénat. Mais pourquoi, depuis 2012, jusqu'à présent, la loi était en train de traînailler? Donc là, il se pose un problème d'organisation des priorités, n'est-ce pas, des matières urgentes par rapport à la nation. Mais il se pose aussi un autre problème. On a parlé, par exemple, de la loi. Notre pays fait partie maintenant de pays...
Est-ce que vous, en tant que député, vous reprochez au président de l'Assemblée nationale qui, au fait, propose... en urgence les matières, ou peut-être à qui est comme la responsabilité?
Non, vous savez, c'est le président, par rapport à la session extraordinaire actuelle, qui, n'est-ce pas, a eu à solliciter une session extraordinaire. Et je suppose que lorsque il a sollicité la session extraordinaire, il avait également proposé de matière. Mais il revenait aux deux présidents. Ça veut dire le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale d'y mettre également d'autres matières qui seraient jugées importantes. Je prends, par exemple, pour les cas. On parle de la loi sur la protection des droits humains. C'est bien. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de cette loi.
Déjà, la Constitution a disposé plusieurs, disons, à des termes d'ailleurs clairs, la question relative au respect des droits de l'homme. Il y a plusieurs articles. On peut voter, on peut parler de l'article 29, l'article 64, l'article... Bon, chacun peut-être mange comme... la Constitution, c'est comme un éléphant. Chacun mange un morceau.
Bien,
difficile d'en terminer.
Bien évidemment, je crois que cette proposition des lois a une base légale, donc une base législative, et qui pour moi, elle est importante, mais elle est urgente. Cette loi, par exemple, on devait adjoindre sur cette loi la loi portant sur les manifestations publiques, qui est une loi déposée par notre collègue Sissanga depuis longtemps, et qui à un moment envoyée au président pour promulgation, est renvoyée, et finalement aujourd'hui, vous-même, vous savez ce qui se passe quand il y a manifestation dans notre pays. Vous avez vu vous-même ce qui s'est passé dernièrement à Beni, par exemple. On avait fouetté, n'est-ce pas, les gens de la Lucha comme de petits animaux, avec des fouets comme de petits animaux, donc comme pratiquement à l'ère de la colonisation. Vous avez vu
donc ce qui s'est passé à Kinshasa, par exemple. Vous aurez souhaité qu'on puisse associer les deux lois, donc c'est-à-dire la loi de Sissanga sur la liberté de manifestation et aussi le ratifier carrément la question relative aux droits de l'homme.
Oui, mais cela n'a pas été fait et nous nous posons la question, pourquoi?
C'est là où maintenant Claude parle de piège. C'est là où maintenant Claude parle de piège.
Non, l'urgence telle qu'évoquée est une urgence par rapport à quoi? Et c'est là, c'est l'urgence par rapport au chef de l'État, c'est l'urgence par rapport au gouvernement, c'est l'urgence par rapport à la nation. Donc moi je crois que si nous privilégions la nation, il y a deux matières importantes qui devraient, n'est-ce pas, être programmées. Bien sûr, par là également de la loi des droits humains.
Deux lois importantes, donc vous parlez de la loi sur la manifestation publique.
La loi sur la manifestation publique, et puis je parle également de la loi qui a été programmée ici, qui est la loi sur la protection des droits humains. Mais nous avons également, par exemple, quand nous parlons des aspects économiques. Aujourd'hui, il est important à ce que l'on puisse avoir des moyens. Mais écoute, comment on va parler de moyens pour organiser des élections alors que le Parlement n'arrive pas à auditer conformément à la loi la CENI? Les rapports sur la gestion de la CENI avaient été déposés au Parlement depuis la session de mars. Non traité à la session de mars,
non traité à la session septembre. De septembre. Et voilà, aujourd'hui, en session extraordinaire.
On ne reprend pas sur les matières urgentes.
On ne reprend pas cette question-là. Donc, moi, je me dis, si, bien sûr, nous voulons stabiliser les cadres macroéconomiques dans notre pays, ce qui est urgent et important, parce que c'est la vente de pair avec les paniers de main, avec les revenus.
Panier de la ménagère,
également, le revenu par habitat, sur notre pays. Mais également, aujourd'hui, le peuple congolais a besoin d'une nouvelle gouvernance. La nouvelle gouvernance passe par les élections. Les élections passe par, n'est-ce pas, la transparence dans la gestion, et on doit être à mesure, les gouvernements, de doter la CENI des moyens. Et les moyens, est-ce que les moyens dans notre pays ne sont pas trouvés puisqu'il n'y a pas de loi? Je ne crois pas. Est-ce qu'il n'y a pas de loi dans notre pays et ce qui fait qu'il n'y a pas de moyens? Je ne crois pas. Il y a la vraie problématique sur le contrôle qui devait, n'est-ce pas, être aussi mis sur la table. Il y a un problème sur, n'est-ce pas, l'état des droits. J'avais ce jour-là apprécié les discours, n'est-ce pas, alarmistes du ministre de la Justice qui qualifiait, n'est-ce pas, la justice de notre pays ou le magistrat de personnes à trois V. Ça veut dire, vous avez la voiture, vous avez le veste et puis une villa. Et donc, lorsque le patron de la justice doit lui-même se plaindre, et sans pour autant agir, ça pose des problèmes. Donc, un état de droit, n'est-ce pas, ne nécessite pas nécessairement à ce qu'il y ait des lois, parce que nous avons plusieurs lois, telles que même, allez la stigmatiser. Nous avons plusieurs lois, mais le problème de notre pays ne réside pas dans les lois, mais réside dans la gouvernance, dans le respect de lois, et c'est là où le Parlement devait totalement être très regardant par rapport à ça.
Alors, Foy Mwindo, vous êtes député, oui, on va quand même passer de notre côté du standard pour retrouver d'autres, auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Franck, vous êtes à Vienne, Maître Coco à Kinshasa et Patrick Bokungu à Bokungu qui est là. Franck, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour notre ami Gér, bon retour au studio. Merve à vous tous au studio, à tous vos auditeurs, de chaleureuses salutations à votre invité.
Merci, ça nous va droit au cœur et nous vous les retourquons.
Je vous en prie. Oui, je suis en train de vous suivre depuis le début. Je crois que on n'est plus à l'âge de faire de la complaisance quand il s'agit de questions vraiment essentielles sur la vie d'une nation. Je dis d'abord merci à l'invité pour sa franchise. Je crois que là, nous devons ajouter qu'il faut distinguer entre le nécessaire, l'urgent et le prioritaire. Donc, je ne vais pas d'abord parler des accessoires, mais on prend d'abord les trois aspects. Le nécessaire, l'urgent et le prioritaire. Le traitement de chaque texte légal peut être nécessaire pour la bonne marche du pays par rapport auquel cette loi peut être appliquée. Mais le même traitement du texte peut ne pas être urgent ou encore moins prioritaire par rapport aux impératifs du temps et aussi aux attentes de la population. Je crois que nous devons nous situer d'abord à ce niveau-là. Puis de deux, si nous devons faire une autopsie de notre société congolaise, c'est comme si nous nous trouvons là, en face d'un médecin qui a déjà fait des faux diagnostics lors de ses consultations et qui tente de prescrire des médicaments pour atténuer la situation. Mais, monsieur le journaliste, quand le diagnostic lors d'une consultation est déjà mal fait, même le médicament que vous allez prescrire pour soigner le patient n'aura pas de fait, parce que les médecins peuvent nous donner raison, ou les infirmiers. Un médicament, un produit pharmaceutique n'a d'effet sur son application que si c'est donné par rapport à la maladie que ce produit doit combattre. Donc c'est comme si quelqu'un souffre de la tuberculose, on va chercher à lui donner des traitements du cancer. Je crois que là, ça ne va pas donner. Puis, nous savons tous que nous sommes devant des situations parfois bizarres. Quand quelqu'un a besoin de l'eau, il a soif, il a besoin de prendre un verre d'eau, on ne va pas lui demander d'aller faire d'abord du marathon. Ça serait contradictoire. Et nous sommes dans un pays où nous avons maintenant des champions sur le non-respect des textes. On a d'abord de l'intérieur, on ne respecte plus nos textes. Nos propres lois internes, notre propre constitution, on ne la respecte pas. Est-ce que ça serait seulement maintenant une priorité ou une garantie de traiter les textes des accords internationaux? Non, même, monsieur le journaliste. On doit quand même respecter les citoyens, parce que quand vous émettez sur Kinshasa là-bas, on vous suit sur tous les coins du monde. C'est pas à vous que je m'adresse, mais à ceux qui nous gouvernent. Donc on ne doit pas prendre des enfants, des hommes pour des hommes non avertis. On doit se rendre compte qu'est-ce qui est prioritaire par rapport aux attentes de la population. Et qu'est-ce que la population demande et qu'est-ce qu'on donne comme réponse à cette population-là. C'est par là qu'il faut aller commencer.
Oui, alors Franck, est-ce alors Franck, vous ne craignez pas comme, vous ne redoutez pas comme Alain Dumbandaka qui parlait tout à l'heure du coût de cette session extraordinaire. Déjà, on a difficile à réunir des moyens pour la tenue des élections. Convoquer une session extraordinaire qui, du reste, a aussi un coût. C'est quand même injuste, hein, selon Alain. Est-ce que vous partagez cet avis?
Mais tout à fait, je voulais en finir là. C'est comme ça que j'ai argumenté par analogie. Si un homme a soif de l'eau, on doit lui donner de l'eau à boire. Si quelqu'un souffre de la tuberculose, on doit appliquer les médicaments pour combattre sa tuberculose. Mais on ne peut pas soigner la tuberculose à base de traitement du cancer. Donc ça ne peut pas aller, ça ne va pas aider. Et pour le moment, on sait ce qui est prioritaire par rapport aux attentes de la population. Et pendant les 3 mois, on n'a pas analysé les textes qui devaient être censés prioritaires. Et seulement maintenant, à 1 mois, on va les traiter. Non, monsieur le journaliste. On suit quand même, on n'est plus à ce niveau-là où on doit seulement nous imposer d'accepter ce qui n'est pas excellent pour qu'on le prenne pour excellence. Non. Quand c'est A, il faut dire A. Quand c'est B, il faut dire B. Donc l'être est, le non-autre n'est pas. Donc on doit cesser de penser que tout le monde au Congo doit seulement acclamer pour se faire passer d'un excellent citoyen. Non.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne. Maître Coco, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, maître.
Bonjour, JR, meilleurs vœux.
À vous autant. Quel est votre avis par rapport à ce débat?
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capier. J'interviens dans ce débat pour dire que il n'est pas mauvais qu'on puisse convoquer une session extraordinaire lorsque il y a de matières urgentes. Mais ce que je constate, c'est quoi? C'est que la notion de l'urgence, c'est une notion relative. Ce qui est urgent pour vous, JR, peut ne pas l'être pour moi. Mais lorsqu'il s'agit des affaires de l'État, lorsqu'on parle de l'urgence, ça doit être quelque chose, des matières qui concernent le peuple. Parce que toute l'action de l'État est dirigée sur la satisfaction de l'intérêt populaire. Mais en prenant les matières qui sont contenues dans la session actuelle. En tout cas, je n'en vois pas une matière qui est vraiment urgente par rapport au peuple. Je n'en vois pas. Parce que toutes les matières là, on pouvait le faire avant.
Oui, maître Coco, parce que quand vous dites que vous ne voyez pas la matière qui est vraiment directement liée au peuple, moi je vous réponds tout de suite en regardant par exemple la proposition sur la liberté du prix. On sait tout de même qu'aujourd'hui les paniers des ménagères posent problème. Parler de la liberté du prix, c'est résoudre quelque part c'est cette question de cette difficulté que traverse la population, et aussi la question sur la banque centrale, la BCC, la réforme, et qui est directement liée à la dépréciation monétaire. Donc je crois que quelque part la population se retrouve.
Mais est-ce que vous êtes sûr que le problème du panier de la ménagère se pose seulement aujourd'hui? Avant 10 ans, ce n'était pas posé. Pourquoi seulement maintenant? C'est pourquoi je dis que cette parole n'est pas urgente maintenant là. Parce que vous aviez parlé, il y a même un auditeur qui a parlé du coût de la session. Mais si on vient avec le coût de la session là, juste pour parler du panier de la ménagère, vous croyez que c'est un problème qu'on aurait déjà traité des années avant? Ou tout comme si aujourd'hui on dit non, consacrez-nous pour des matières urgentes. Par exemple, la loi, il y a des gens qui sont morts le 31 décembre. Parce que il n'y a pas de loi sur la manifestation publique. Et chacun interprète les dispositions constitutionnelles à sa manière. Voilà une loi, parce que le mois de juin, parce que si nous devons suivre le calendrier tel que présenté par la CENI, au mois de juin, donc dans 6 mois, ce n'est pas encore longtemps, hein, ce n'est pas encore loin, il y aura convocation du corps électoral. Mais le corps électoral, là, nous, les campagnes vont se faire comment? Parce que ce sont des manifestations qui vont commencer public à ce moment-là. Mmh. Et là, vous ne parlez même pas de cette loi-là qui a un impact direct avec la vie de la population. Est-ce qu'on voudrait que encore au mois de juin, parce que nous allons accompagner, nous allons convoquer le corps électoral, qu'il y ait encore des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas de loi sur la manifestation publique juin. La Banque centrale, si aujourd'hui cette loi-là n'est pas votée qui concerne la Banque nationale, est-ce que la vie va s'arrêter, Gilles? Mmh. Mais si on doit le faire, pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant? Pourquoi seulement maintenant? C'est ça que nous disons, que lorsqu'il y a urgence, ça doit avoir un impact direct vis-à-vis du peuple et non pour des intérêts politiciens, pour des intérêts que nous ne savons pas. C'est pourquoi celui qui m'a précédé a parlé même de pièges.
Merci beaucoup,
voilà
maître.
Voilà ce que nous avions à dire à ce niveau. Merci. Vous ayez une préoccupation, je suis disponible.
Merci beaucoup, maître Okoko, d'avoir appelé de Kinshasa et d'avoir participé, hein, de manière citoyenne dans ce débat et cet échange. Patrick, vous êtes à Bokungu Ikela. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis plutôt Papi Baka et non Patrick.
Vous avez la parole. Vous avez la parole, Papi.
Ok, merci, monsieur le journaliste. Je salue d'abord l'invité et les intervenants de la radio Capi. Donc, ma contribution est celle-ci. Cette session extraordinaire, c'est regrettable. Moi, j'ai ce qu'on est en train de voir au Congo par le dirigeant. Ce sont, nous assistons aux aventures de nos députés, tant provinciaux que nationaux. Combien de temps qu'ils ont eu pendant leur mandat? Et les matières telles que le droit de l'homme et consorts. C'est le moment de les traiter. C'est aujourd'hui qu'on va traiter toutes ces lois. Alors que la constitution même a autant d'articles comme nos amis ont déjà intervenu. Il y a beaucoup d'articles que la Constitution a prévu pour garantir les droits de l'homme. Et c'est aujourd'hui qu'on va aller à une réunion, à une session pour dire que voilà, nous voulons arranger une loi au bien des Congolais. Non, ce sont les aventures que les députés ont toujours arrangées avec leur pouvoir. Et ils seront victimes à la base ici. Vraiment, ils seront victimes. Tout ce temps qu'on leur a accordé à ceux qu'ils fassent mieux pour le bien des Congolais et ils assistent aux aventures. Et merci. Maintenant, nous, on est témoins, on est en train de voir combien de choses où les députés sont en train de s'aventurer.
Merci
donc,
beaucoup.
Cette session n'a pas de rapport au bien des Congolais. L'urgence, c'était d'aller aux élections. Qu'ils fassent le mieux, qu'ils fassent les sessions extraordinaires qui peuvent nous garantir que les élections seront organisées à la fin de cette année, s'il vous plaît.
Merci beaucoup.
Qui ne cherche pas à s'éterniser au pouvoir, ce sont les manœuvres giratoires.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, Papy.
Comme ça, il commence à faire...
Merci infiniment, Papy. On va prendre Sonville. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs. Voilà. On prend Aboubakar, qui est à Chabunda. Monsieur Aboubakar, bonjour. Voilà, on a des petits soucis avec le deux lignes. Le temps que les choses s'améliorent derrière la baie vitrée. On revient à vous, monsieur Paul Moindo. Vous êtes député national et porte-parole de rapporteur donc de la sous-commission environnement. Vous venez de suivre d'ailleurs les uns les autres dans cette deuxième série des auditeurs. Il y a cette question de coût de cette session qui revient. C'est vrai, vous allez vous contenter de vos émoluments, on va vous payer vos per diem, et finalement vous allez voter des lois, mais qui n'auront pas un impact sur la vie de la population.
Oui, vous savez.
Et qui ne sont pas du reste urgentes.
Oui, très bien. Je voudrais d'abord dire aux auditeurs, juste une question informationnelle, c'est que toutes ces matières, telles que nous les avions énumérées, donc les 6 matières, ne vont pas totalement engager un grand débat. Ce sont des matières qui sont à 90% ou à 95% en seconde lecture. Ça veut dire que c'est une matière que l'Assemblée nationale
avait déjà traité.
Examiné.
Il ne reste que la réexamination du Sénat et on passe, n'est-ce pas, aux commissions mixtes. Ce qui fait que vous allez voir aujourd'hui, par exemple, c'est juste le Sénat qui est en train de travailler parce que elle doit finaliser, n'est-ce pas, toutes ces matières-là. Et par là de la question de l'importance et aussi la question de l'urgence, moi je crois que au-delà de tout, l'État doit fonctionner. Et on ne peut pas se dire que ces matières ne sont pas des matières à rejeter. Non, ce ne sont pas des matières à rejeter. Mais nous nous posons la question sur l'urgence et sur l'opportunité. Est-ce opportune de les aligner ou non? Et voilà, c'est là, je crois, que ce qui devait plutôt intéresser tous les invités. Puisque, bon, que ce loi ici soit traitée maintenant ou demain, mais elle devra à un moment être traité. Et nous nous sommes dit aussi que l'important pour nous et les rôles que devait jouer le Parlement ne serait pas simplement celui de voter le loi, mais la Constitution impose au Parlement d'exercer un contrôle. Malheureusement, vous-même, vous êtes témoin du résultat que donnent ces contrôles au niveau du Parlement, donc ce qui est un échec. Et moi, je crois que l'introspection, l'analyse réelle que se poserait le Parlement serait de savoir qu'est-ce que nous avons fait durant ces 5 ans et qu'est-ce que nous n'avons pas
alors, si fait. Dans cette confusion, donc, je crois que les hommes avertis peuvent vous donner, en tout cas, cette législature, une note, en tout cas, je ne risquerai pas de parler des médiocres ou des mauvaises, mais quand même pas une note très satisfaisante pour vous, en tout cas au niveau du Parlement.
Je crois que
ou peut-être vous allez responsabiliser les bureaux qui recevaient la matière et qui devaient proposer au débat.
Je crois qu'il revient à chaque député d'abord de faire un bilan pour lui-même, et s'il faut aussi faire un bilan pour le Parlement, cela s'est fait à la fin de chaque session parlementaire. Mais si je dois revenir sur des grands objectifs, la légifération, le contrôle parlementaire, je dois me dire aujourd'hui que le Parlement, la législature actuelle, a légiféré plus que beaucoup d'autres législatives passées. Ça, c'est vraiment, c'était une grande réussite. Mais sur le plan, du contrôle parlementaire, nous sommes parmi les députés qui avions initié beaucoup d'initiatives, des questions orales, des interpellations, des questions écrites. Mais nous sommes toujours, lorsqu'on a interpellé un ministre, à la fin, lorsque vous avez cheaté sur les recommandations, ces recommandations ne sont pas suivies. Et donc, je crois que sur le plan des contrôles parlementaires, le Parlement n'a pas été totalement trop excellent. Et je crois que ça, c'est tout le monde le vit. Et nous devons, n'est-ce pas, le dire encore, parce que on a échoué sur ce plan-là. Et là, nous responsabilisons, tout acteur, surtout, les bureaux qui n'avaient pas joué totalement ce rôle par rapport à cette question, mais également des gens qui se méconduisaient lors de ces contrôles parlementaires, mais aussi la loi de la majorité parlementaire qui faisait que beaucoup d'initiatives, par cette pesanteur de la majorité, étaient totalement déboutées, et comme s'il n'y avait pas nécessité, il n'y avait pas intérêt du peuple. Donc là, c'est parmi des faiblesses, n'est-ce pas, de cette législature. Mais je me dis, les lois aujourd'hui, telles que cela ont été proposées, sont de matière importante. Et je parle par exemple du code minier. Vous savez que aujourd'hui, si nous prenons simplement la Gécamines à l'époque de Mobutu, était une entreprise, la grande contributrice, n'est-ce pas, sur le trésor public, et faisait
un grand poumon économique.
Mais aujourd'hui, quand vous prenez la simple, n'est-ce pas, de toute la production des entreprises locales au niveau du Katanga, elle dépasse à 2-3 fois la production de la Gécamines. Mais où sommes-nous par rapport, n'est-ce pas, au résultat? Voilà. Ça pose un problème. Mais si je dois quitter sur cette question-là, il y avait des initiatives. Par exemple, moi, j'avais adressé une question sur cette question-là, mais ça n'a jamais été débattu. Donc, je crois qu'il y a,
c'est une matière importante. Une production législative sélective, en tout cas, passez-moi les termes, aux humeurs des uns et des autres. Il y a un débat à lancer également à ces niveaux. Merci Paul Moïndo. Nous rappelons que vous êtes député national et rapporteur de la sous-commission environnement. Merci d'avoir accepté notre invitation pour échanger dans ce premier numéro de la nouvelle saison. Parole aux auditeurs, cette nouvelle année 2018. Merci une fois encore et merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission et qui a été supervisée par Julien Niamouini, Mimi Kindou et aussi Piro et Lameji étaient à la production de cette émission, coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro.